Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons sur Radio Ondaine Abdelkader Rehlan. Abdelkader Rehlan est auteur, conférencier. Il est également directeur d'une mission locale en Haute-Loire et représentant du CORA, Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous vivons depuis un certain temps dans une atmosphère peu sereine, dégradée pour certains, anxiogène pour d'autres. Discussion aujourd'hui simple avec celui qui est animé par la promotion du vivre ensemble et qui lutte contre toute forme de préjugés. Bonjour Abdelkader.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Merci de m'accueillir.
Alors effectivement, on a l'habitude de vous recevoir quand vous présentez vos ouvrages, quand vous participez à des ateliers que l'on peut mettre en place aussi avec Radio Ondaine autour de la laïcité, autour du vivre ensemble. Et puis nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui parce que l'occasion était bonne, et peut-être ce mot bonne n'est peut-être pas le meilleur, parce que nous vivons aujourd'hui une atmosphère un peu particulière. On œuvre depuis longtemps pour le vivre ensemble, et ce vivre ensemble-là tend à se dégrader un petit peu quand on allume les émissions, la télé, la radio, quand on regarde sur Internet. On vit un peu à côté en ce moment.
C'est vrai. Alors moi, je vais commencer par dire que je suis un humaniste optimiste. Donc il n'y a rien qui pourra venir, entre guillemets, perturber mon optimisme. Ça, c'est clair, net et précis. Alors c'est vrai, on vit une période très sombre dans laquelle on sent les clivages qui sont de plus importants. On sent aussi que voilà, les gens se renferment. Où on sent aussi des communautarismes, mais de tous bords. Moi, ça me fait peur, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que voilà, c'est la société évolue aussi à travers les réseaux sociaux, à travers les nouveaux médias. Et donc, je pense que notre société ressemble aussi à ce que nous renvoient justement ces médias. Moi, je pense très franchement que les choses s'amélioreront parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, si on veut vivre ensemble, on n'a pas le choix. Mais il faut surtout que notre humanité ressorte de tout ça. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans des débats stériles. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans du partisanat un petit peu qui parfois est à côté de la réalité de ce qu'on devrait vivre. Moi, je suis très très branché sur le fait justement d'essayer d'être dans la compréhension de l'autre. Et ça, pour moi, c'est fondamental. La compréhension de l'autre qui nous permettra justement de pouvoir tisser un lien, tisser... Enfin voilà, l'idée, c'est on fait des ponts, mais pas des murs, quoi.
Alors, je disais dans mon introduction que c'était la période que l'on vivait. On peut comprendre cette période actuelle, mais revenons quand même sur les événements qu'on a vécu. La Covid, le confinement, enchaîné ensuite avec une période de guerre en Ukraine, que l'on découvre, hein, parce que cette guerre qui a été plus ou moins cachée, parce qu'elle existe depuis très longtemps. On parle d'inflation, on parle de migrants depuis de nombreuses années, de ces réfugiés, de gens qui partent de leur pays, qui traversent la Méditerranée, que l'on accueille, et puis cette période aussi avec ces événements récents entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza. Voilà, on est un peu dans le flou. Alors vous travaillez aussi avec des jeunes, c'est aussi une de vos activités à l'année. Comment vous le ressentez tout ça depuis ces 4 dernières années ?
C'est vrai. Alors d'abord, je parlais à mon niveau. En fait, tout est une question de prisme. Moi, je regarde tous ces événements avec un prisme plutôt qui va essayer de, alors pas d'édulcorer, mais presque les choses. C'est-à-dire que le Covid, je le regarde avec une facilité en me disant voilà, j'ai vécu avec ma famille probablement la meilleure période de ma vie, parce qu'on était ensemble tout le temps et on a partagé des choses incroyables. Donc voilà, mon prisme, c'était de le regarder de cet effet-là. Après, effectivement, il y a eu les décès, il y a eu tout ce qu'on a pu voir, mais voilà, j'essaye de regarder les choses toujours avec, en essayant tout au moins d'en regarder ce qui a pu aussi permettre d'avoir une petite vision positive. Alors ça peut être aussi vrai pour l'Ukraine. On peut aussi se dire que ben voilà, à un moment donné Poutine est mis en lumière, la réalité de ce qu'il est, elle est mise en lumière. Malheureusement, il y a des morts derrière, mais en tout cas voilà, c'est aujourd'hui il y a plus de secret. On sait que Poutine est un dictateur et c'est assez révélateur de le voir comme ça. Maintenant, pour ce qui se passe en, en, au Moyen-Orient, c'est par contre là vraiment là je crois qu'on a touché un peu le fond parce que on est dans des rapports qui sont d'une violence inouïe. Moi qui encore une fois prône l'humanité, c'est vrai que j'en souffre beaucoup de voir ce qui se passe là-bas, mais de voir aussi ce qui se passe ici. Après les jeunes, effectivement, mais les jeunes c'est des éponges. Ils sont aspirés, ou plutôt ils prennent les choses et les amalgament en eux assez naturellement, et malheureusement ça leur fait du mal. C'est des éponges, et donc comme des éponges, parfois ils vont être une éponge, si on met trop d'eau, elle est inondée et elle sert plus à rien. Et les gamins aujourd'hui, c'est, j'ai envie d'avoir cette métaphore là, c'est qu'ils sont inondés par toutes les informations et ça leur fait du mal et ça ne leur permet pas forcément d'avoir du recul dans la perception de ce qui se passe.
Effectivement, vous animez des ateliers d'écriture. On parle de ces événements-là internationaux, mais au niveau du national, on a eu la mort de Naël aussi, qui a déclenché ces émeutes qu'on a eues il y a quelques mois. Ces jeunes sont des éponges. Vous parlez de réseaux, s'enfermer aussi dans des réseaux sociaux, et puis ressortir au grand jour en ayant toutes ces images en tête. Si l'on revient un peu sur ces émeutes-là aussi, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Dans ces ateliers d'écriture que vous animez, est-ce que ce sont des sujets que vous abordez, est-ce que ces sujets d'actualité ressortent naturellement?
Oui, alors en fait les ateliers d'écriture que j'anime, c'est pour une association qui s'appelle Graines de France, hein, et je les anime donc dans toute la France, et elles ont objectif de promouvoir le rapprochement police-population. Donc pour le coup, on est en plein dans ce qui s'est passé. Alors je faisais avant l'affaire Naël, je le fais encore aujourd'hui, et effectivement, les gamins ont été frappés par ce qui s'est passé, parce que on a tous été frappés par les images de la mort de Naël. Je dis pas assassinat parce que je laisse la justice. Moi, je suis quelqu'un de très prudent. Je laisse la justice aussi passer. Après, je conçois aussi que c'est inadmissible de voir un phénomène comme ça. Mais en même temps, franchement, à travers les ateliers que je fais, les jeunes, les gamins, globalement, ils comprennent que la police est nécessaire. Moi, je fais un atelier écriture avec eux, et dans l'atelier écriture, on fait ressortir le fait que la police, qu'on veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, elle est primordiale, elle est, j'ai envie de dire, on peut pas avoir une société digne de ce nom sans une police, sans des forces de l'ordre. Voilà. Et ça, ils l'ont compris. Quand je leur dis, imaginez un monde sans police, c'est assez naturel, c'est le chaos. Donc ça, je pense qu'ils ont cette compréhension. Maintenant, les gamins, comme les parents d'ailleurs, ils sont exigeants, vraiment. Et vous savez, on fait aussi des tables rondes avec les familles. Les familles demandent quoi? Elles demandent du bleu. Elles demandent du bleu. Elles veulent qu'il n'y ait plus de trafic de drogue en bas. Elles veulent que leurs enfants puissent vivre en sécurité. Ça, c'est une réalité de ce que je vois et de ce que j'ai et des échanges que j'ai pu avoir.
Alors, ces échanges-là se font d'une manière formelle dans un cadre d'une association, Graines de France, dont vous faites partie, où vous parlez de ces relations-là, police, population, habitants. Et vous disiez tout à l'heure, ces débats stériles. Alors, ces débats stériles, quels sont-ils? On imagine bien que c'est ceux que l'on entend dans les médias, qui sont ici affichés, qui sont, rappelons-le, affichés pour faire vendre de la publicité. On parle de médias privés, médias associatifs comme Radio Mondaine, on est ici pour avoir des discussions plutôt libres, et quand on parle de ces grands médias, on parle de la télévision. Comment on lutte contre ça et comment on arrive finalement à faire prendre conscience à chacun qu'il a aussi le droit de prendre les choses et de penser par lui-même?
Ça, c'est primordial. C'est essentiel même de faire le tri. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais au collège et j'avais un prof qui nous avait appris à trier les informations. À l'époque, hein, déjà, il n'y avait pas toutes ces chaînes, je parle des années 80, mais de trier l'information. Un article dans le Figaro, c'est pas un article dans le Monde, et c'est pas un article dans le Canard Enchaîné. Voilà, on avait appris à distinguer d'où venait l'information, et à partir de ce moment, on savait que l'information étaient traités avec un parti pris. Voilà. Aujourd'hui, je crois que les gamins ont peut-être, alors j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, et je pense qu'on a une jeunesse qui est très belle, contrairement à ce qu'on peut dire, contrairement à ce qu'on peut entendre, et nos jeunes, c'est l'avenir de demain, et je pense qu'ils nous, je suis absolument convaincu que nos gamins vont nous donner un monde mais beaucoup, enfin meilleur que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Maintenant, faire le tri des informations, c'est aussi, moi aujourd'hui par exemple, je vais de moins en moins sur TikTok. J'y allais beaucoup parce que pour moi c'est le thermomètre de la société. Les réseaux sociaux en règle générale, c'est le thermomètre de la société. Quand j'écris, j'ai besoin de m'inspirer. J'y vais beaucoup moins. Je regarde beaucoup moins les chaînes TV, les chaînes d'information en direct, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le voit, on le comprend, qu'elles ont un parti pris, et il faut faire le tri, bien sûr, il faut savoir analyser les choses, et puis se faire sa propre opinion. Ça, comme tu le disais, c'est extrêmement important, et moi, en tout cas, je me bagarre auprès des gens en leur disant arrêtez avec vos certitudes. La certitude, c'est la mise en arrêt de l'intelligence, je le dis tout le temps, mais je le rappelle, et je vais terminer là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important. Je dis toujours aux gamins, vous savez, la certitude, il faut imaginer que son cerveau, c'est une maison. Cette maison, les volets sont fermés, la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, rien ne rentre, ça pue le renfermer. Voilà, ça pue le renfermer. La certitude, c'est ça. Alors que le doute, l'ouverture, c'est à un moment donné, on ouvre tout, on laisse rentrer, ça aère, c'est plus propre. Et quand les choses ne sont pas bonnes, on les met dehors.
Alors, oui, mais si on parle de TikTok, par exemple, on sait aussi que c'est un moyen ultra rapide et ultra efficace pour rentrer dans ces maisons-là et refermer les portes en disant « n'écoutez pas ce qui se passe autour » et qu'on s'aperçoit que cette liberté que l'on peut avoir avec Internet qui nous donne l'accès à la culture nous enferme aussi dans des certitudes qu'ont certains de devoir convaincre les autres et de se dire « tiens, lui, je vais l'approcher à moi pour défendre ma cause qui n'est peut-être pas la cause la plus noble. »
C'est ça, mais tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur la radicalisation. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, quand j'ai vu les jeunes radicalisés ? C'est ça, c'est qu'ils étaient dans des certitudes qu'ils avaient acquises d'une autre personne qui avait une certitude. Et malheureusement, toutes ces certitudes étaient fausses. Hein. C'était une réalité. Hein. Donc, le problème, c'est aussi, à un moment donné, l'éducation. On doit éduquer nos gamins à faire le tri, à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur donne comme information. Et aussi d'utiliser plusieurs axes de formation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas que leur centre d'information, c'est la vidéo, voilà, parce qu'on est friand de vidéos. Moi, je les invite aussi beaucoup à aller vers l'écrit, c'est-à-dire à aller lire des informations dans l'écrit, alors sur les réseaux sociaux, et faire le tri, bien évidemment, des sites sur lesquels on va, mais aussi des journaux indépendants qui permettent aussi voilà, d'ouvrir son champ de réflexion.
Alors, si je reprends les titres de vos ouvrages, En pleine face, Cœur à l'aile, Chez nous, ça se fait pas, Haram City... Bizarrement, on peut résumer ces titres-là, on peut le transposer sur ce qui se passe, et si l'on revient sur ce qui s'est passé entre Israël et le Hamas. Avec ces massacres-là, avec cette information qui est donnée, il faut donner en premier cette information-là, avec la vengeance en retour, parce qu'on peut considérer aussi des phénomènes comme vengeance, avec des informations qui sont triées, on montre beaucoup d'images, on est dans une société d'images, on est dans un flou total finalement quand on est spectateur, quand on regarde cette marche qui a eu lieu le 12 novembre dernier, des invités, d'autres personnes qui sont pas forcément invitées, des personnes qui se disent que s'ils y viennent, on va amalgamer leur présence, voilà, on est dans le flou total.
Malheureusement, c'est vrai. Et même moi, je vais être très honnête, hein, je suis courageux, mais pas téméraire. Et je fais attention quand je parle sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie toujours d'être le plus honnête possible avec moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun racisme, aucun antagonisme envers quelque ethnie ou religion. Voilà, moi je mets au centre de ma réflexion mon humanité. Voilà, et moi je regarde l'autre avant tout comme un être humain. Et c'est pas que des paroles, c'est vraiment, je le pense du plus profond de moi. Je suis musulman pratiquant et pour autant voilà, je ne mets pas enfin je pars du principe que quand j'ai un être humain en face de moi, c'est un être humain. Peu importe sa religion, peu importe sa couleur de peau, peu importe son orientation sexuelle, je le regarde comme un être humain. Et en tant que tel, je le défendrai contre tout rejet, je le défendrai contre toute agression au nom de ce qu'il est. Voilà. Et donc, quand je vois des Israéliens se faire tuer... ben voilà, moi j'ai mal, mon cœur souffre de la même manière, et pas de, je dis pas mais, je dis de la même manière, quand je vois ce qui se passe à Gaza, mon cœur souffre et pleure, mais il va pleurer de la même manière pour un Israélien que pour un Palestinien, et je m'en contrefous de penser qu'il est musulman ou pas, je pars du principe c'est un être humain, et voilà. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour que j'ai pour une personne, voilà, pour un être humain. J'ai pas de hiérarchie, voilà. Et ça, si on pouvait tous réfléchir comme ça, ça serait assez simple. Et juste pour par rapport à la religion, parce que beaucoup, voilà. Moi, je pense que mon comportement, c'est celui d'un vrai musulman, voilà, tout simplement. Mais je dirais même, pour aller plus loin, c'est le comportement d'un vrai croyant, qu'il soit juif, catholique, musulman. On doit d'abord et surtout aimer l'humanité et aimer l'être humain, voilà.
Ou celui d'un marxiste, si on est athée.
Exactement, ah ouais, bien sûr, ah ouais, ouais.
Alors, vous parliez d'avoir une personne en face de vous et qu'on traite toutes les personnes de la même manière et qu'aujourd'hui, on est dans une réflexion de groupe. On met des groupes, vous faites partie de tel groupe. Et souvent, même aux plus hautes instances de l'État, on parle de groupe, on parle plus de personnes. Ça vous fait quoi, vous, avec le regard que vous pouvez avoir et de votre expérience de partage avec ces ateliers d'écriture, avec votre activité en mission locale, où vous rencontrez des personnes. Après, c'est le groupe jeune dans les missions locales, mais c'est des personnes aussi. Quand on analyse un peu la société et qu'on se voit considéré comme un groupe, qu'est-ce que ça fait ?
Ben, je pense que c'est la tristesse justement de notre société aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de s'identifier forcément à un groupe. Et je trouve ça triste parce que par exemple, quand on parle de communauté, moi je me reconnais dans la communauté nationale, voilà. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence. À partir du moment où je me retrouve dans la communauté nationale, celui qui est juif, celui qui est athée, celui qui ne croit en rien, celui qui est catholique, il est mon semblable, mais vraiment au sens propre du terme, voilà. Et si je voulais aller beaucoup plus loin dans la réflexion, je dirais que on fait partie de la communauté de la Terre et que partant de là, moi ce qui se passait avec les Ouïghours, je le condamnais. Ce qui se passait avec les chrétiens d'Orient, je le condamnais. Et voilà, c'est de se dire voilà, je ne fais partie d'aucun groupe si ce n'est celui d'appartenir à la même race entre guillemets, hein, parce qu'on est tous des êtres humains, même les races. Moi, pour moi, il n'y a pas de race. On est tous, enfin, c'est mon avis, hein, mais on est tous des êtres humains et je nous regarde de cette manière. Et en tout cas, dans mon engagement, je suis un militant. Moi, je suis un militant de l'humanisme. Voilà, mon credo, c'est un peu le chemin qu'avait pris Albert Camus. Et l'idée, c'est ça. Je pense qu'il m'a beaucoup inspiré. Et à travers lui, j'ai envie vraiment de faire en sorte que ce soit notre humanisme qui ressorte et que l'on puisse se regarder les uns et les autres pour ce que l'on est d'abord et surtout des êtres humains.
Alors, on arrive au terme de notre discussion, petite discussion d'une vingtaine de minutes. Écrivain Abdelkader Elan, quel est le prochain thème que vous allez aborder ?
Alors c'est une question super intéressante. Là, mon livre est terminé, il est parti en correction. Alors là, je sors complètement de tout ce que j'ai pu écrire, c'est-à-dire que je me réinvente totalement. Voilà, en termes de littérature, en termes d'écriture, en termes de sujets, je sors complètement des sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Et en fait, là, ce que j'essaie d'explorer à travers mon prochain roman, c'est la culture du doute, c'est-à-dire permettre à tout à chacun de pouvoir douter de Dieu, douter de la société, douter. Parce que je pars du principe, c'est que quand on doute, c'est un peu les fenêtres ouvertes de ma maison, et ça nous permet de faire entrer des choses.
Alors, est-ce qu'il faut douter en étant complotiste ?
Absolument pas. Justement, si on doute, c'est une force parce qu'on va vouloir rechercher. Il y a de mémoire, je crois qu'il y avait un texte religieux, je ne citerai pas de quelle religion, qui disait le meilleur des croyants, c'est celui qui doute. Parce que celui qui doute, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher la vérité. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, cherchez la vérité dans tous les sujets sur lesquels vous êtes impliqués.
Alors ça fera l'objet d'une nouvelle invitation et on sera ravis de vous retrouver sur l'antenne de Radio Ondaine. Merci Abdelkader Merci. Elan d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Quelques minutes.